Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Les autres. Du Trisac. L'original. Radio. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bon, est-ce qu'on a tout désinfecté là? Tout est correct. Il y a des lingettes partout. J'en ai sur moi, j'en ai sur le bureau, sur la souris de l'ordinateur. C'est mercredi 18 novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. À midi, on aura la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, pour nous parler de l'argent qu'on sort pour aider ceux qui sont vraiment mal pris. On parle d'hébergement, de restauration. On l'aura avec nous vers midi. À 11h, on va faire le tour des grandes pandémies qui nous a amené à la COVID-19, cette saloperie qui ruine nos vies. On va avec Denis Goulet et présentement, on va aller joindre la porte-parole d'Hydro-Québec, Lynn Saint-Laurent. Madame Saint-Laurent, bonjour.
Bonjour,
je voulais aller tout de suite à vous parce que on a vu que le gouvernement Legault a présenté son plan vert, mais je me disais, tout ça c'est très bien, là, mais vous à Hydro-Québec, vous travaillez là-dessus, là, mais de façon très, très concrète et vous essayez surtout de vendre l'électricité à la Nouvelle-Angleterre. Il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles. Où en êtes-vous dans le dossier?
Ben, ça progresse de manière très positive. Donc, le projet qui va relier le système d'Hydro-Québec avec le réseau de distribution d'électricité, de transport d'électricité de la Nouvelle-Angleterre via le Maine, c'est un projet, on le sait, qu'on veut construire pour répondre au contrat qu'on a signé avec le Massachusetts. Donc, ça progresse aux États-Unis. Presque tous les permis ont été obtenus. C'est pas rien parce que c'est un exercice réglementaire qui implique des expertises d'expertises différentes, si on veut, là, pour analyser le projet. Tous les permis ont été obtenus. Il nous en manque encore un du côté fédéral, du département américain de l'énergie. Mais ceux qui ont été obtenus jusqu'à maintenant vont permettre à notre partenaire, au Maine, qui est l'entreprise Central Maine Power, de commencer la construction dans les semaines qui viennent. Ça progresse de manière assez positive. Du côté québécois, on est en pleine démarche réglementaire. Donc, il y a la Régie de l'énergie du Québec qui a autorisé le projet. On a fait la démarche auprès du BAP. Vous avez peut-être suivi ça cet été avec les audiences du BAP, dont on attend le rapport bientôt. Ensuite,
Madame Saint-Laurent, je lisais que au Maine, là, ça avait pas, c'est pas simple. Il y a l'industrie récréotouristique là du Maine qui était contre ce corridor électrique. Là, on parlait de 85 kilomètres de forêt, 200 ruisseaux, et ce groupe-là était financé aussi par deux compagnies gazières, dont Calpine, qui possède des centrales énergétiques au gaz naturel. Et ça, le gaz naturel, l'électricité, là, ça fait pas bon ménage. Il y en a un qui est écologique, l'autre l'est moins. Puis il y avait une campagne publicité contre ce projet d'Hydro-Québec de 6 millions de dollars. Vous avez dû en mettre 9 millions. C'est un combat, là. C'est pas harmonieux, cette affaire-là.
C'est un combat. Vous avez raison, c'en est un. Écoutez, les infrastructures de transport, c'est quand même assez typique qu'il peut y avoir de l'opposition. On comprend ça, des citoyens qui veulent pas voir des pylônes et des câbles apparaître dans leur paysage.
Des lobbies.
C'est normal.
Des lobbies.
Les lobbies se mêlent à ça, effectivement. Donc, on retrouve, c'est un groupe assez hétéroclite, là. On retrouve là-dedans des citoyens qui ont leur raison d'opposer le projet. Des groupes environnementaux qui reçoivent des contributions de compagnies que vous avez décrites, les compagnies gazières, de l'industrie fossile, dont certaines comptent parmi les pires pollueurs du Maine, et qui admettent sans retenue que ce projet-là va donc miner leurs revenus. Pourquoi? Parce que c'est une grande quantité d'énergie propre qui va être achetée de manière assurée par le Massachusetts, et donc on vient leur enlever des parts de marché. C'est dommage parce qu'on est en pleine transition énergétique en raison d'une urgence climatique, et c'est le projet actuellement qui peut amener les plus importantes réduction de gaz à effet de serre en un seul projet.
Ouais.
Donc, en Nouvelle-Angleterre, c'est le projet qui peut faire la plus grande différence. Et en plus de ça, sur le long terme, c'est un projet qui va venir soutenir tout le déploiement des projets éoliens, solaires dans la région. Il n'y a pas mieux que l'hydroélectricité qui est non seulement propre, mais flexible, hein, modulable à la demande. On va pouvoir jouer notre rôle de batterie naturelle.
Ouais.
Donc, sur le long terme, c'est gagnant. C'est dommage qu'il y ait ce lobby contre le projet.
Est-ce que je me trompe, Mme Saint-Laurent, là, mais on dit que c'est l'équivalent de retirer 700 000 voitures des routes?
Chaque année.
Chaque année, c'est quand même extraordinaire. Et Calpine, c'est une des deux compagnies gazières là, qui finance l'opposition à ce projet, a reçu, je lisais en 2017, un investissement de 900 millions de dollars du régime de pension du Canada. Avez-vous appelé Justin Trudeau, qui revenait de Paris, lui-là, là, il a signé l'accord de Paris. Et là, d'un côté, Ottawa finance des compagnies gazières qui combattent les projets hydroélectriques du Québec.
Écoutez, il y a peut-être d'autres gens qui l'ont fait, comme j'ai déjà dit, là, c'est pas à nous de commenter là, les stratégies d'investissement. Mais c'est clair que ce projet-là, comme je vous le disais, peut faire une énorme différence. D'avoir une meilleure intégration avec le réseau de la Nouvelle-Angleterre, c'est une étape clé pour en arriver à mieux jouer ce rôle de batterie naturelle. Vous savez, M. Dutrisac, on n'a pas construit une nouvelle interconnexion avec les États-Unis en 30 ans. On a développé notre capacité de production au Québec. On a ajouté des centrales depuis les quelques 20 dernières années, mais on n'a pas de nouvelles interconnexions. On les utilise à fond et on en a besoin d'autres pour pouvoir contribuer davantage. Déjà, nos exportations chaque année réduisent. L'an dernier, c'était près de 7 millions de tonnes d'équivalent CO2 que nos exportations ont permis d'éviter dans nos marchés. On peut en faire plus.
Oui, non, je comprends pas que des groupes qui se disent environnementaux préfèrent des centrales au gaz que l'hydroélectricité. Moi, ça me dépasse. Est-ce que là, tout ce qu'on va vendre, d'abord, est-ce qu'on va le vendre à rabais? Et deuxièmement, est-ce qu'on va, nous serrer la ceinture pour fournir les Américains?
Absolument pas. On a l'énergie disponible au Québec. On a une grande capacité de production. Nos réservoirs ont une capacité de stockage énorme et dans les conditions hydrologiques qu'on connaît, sont à des niveaux très élevés. Comme je vous disais, on a ajouté une capacité de production. La Romaine, on la complète. Il va y avoir Romaine 4 qui va s'ajouter d'ici peu. Donc, on a l'énergie disponible pour envoyer aux Américains dans des conditions qu'on a négociées dans le cadre d'un contrat de 20 ans. Et ça va être un contrat qui va être très bénéfique pour les Québécois, avec des revenus substantiels chaque année pendant 20 ans. Et la beauté de la chose...
Ouais, mais attendez, substantiel, ça veut dire quoi? Là? Moi, j'ai lu 10 milliards. Là. C'est-tu vrai?
Mm-hmm. Ben, écoutez, c'est des centaines de millions de revenus annuellement. Ça, c'est ce que le
garantie.
Contrat va apporter au Québec.
Mais le prix que vous chargez aux Américains, est-ce que c'est un prix comparable au Québec?
C'est un prix comparable, mais non, mais c'est différent parce que là, au Québec, on a l'énergie qui est produite, transportée, distribuée. Là, on a un contrat à prix très avantageux qui est au-delà du prix moyen qu'on obtient sur nos marchés. Donc, ce contrat-là va nous permettre d'ajouter donc des nouveaux revenus pour l'entreprise et donc pour le trésor public de centaines de millions de revenus annuellement par année pendant 20 ans. Et après, on va continuer d'utiliser cette ligne-là.
Mm-hmm.
On va continuer d'utiliser, vous savez, la grande autoroute d'exportation qui part de la baie James et qui va jusqu'au Massachusetts, une ligne de transport qu'on appelle Phase 2, qui a été construite dans les années 80. Elle a été construite grâce à un contrat à long terme qu'on avait signé avec des compagnies de distribution d'électricité. Ce contrat-là est venu à échéance et cette ligne de transport, elle est largement utilisée pour exporter notre énergie.
Donc, c'est une percée, là. C'est une percée vers le marché américain. L'arrivée de Joe Biden, j'imagine, ça va changer les négociations avec les États-Unis?
Ben, écoutez, depuis plusieurs années, les objectifs de décarbonation sont déterminés par les États et on voit justement que dans le cadre de la transition énergétique, ces objectifs-là sont ambitieux, c'est une très bonne chose. Ils déploient beaucoup d'efforts pour se doter de nouvelles ressources renouvelables, notamment avec le solaire et l'éolien. Et l'idée, et c'est de plus en plus discuté. On sent cet intérêt, cet appétit-là pour l'hydroélectricité du Québec, étant donné qu'elle a cette même qualité de flexibilité que le gaz naturel, mais elle peut être, mais elle est propre, évidemment, on le sait, un niveau de carbone de zéro, hein, quand lorsque nos centrales sont déjà construites. Donc, c'est des grands avantages aux États-Unis. Et puis, pour ce qui est des négociations avec l'État, vous savez, c'est fait avec le Massachusetts, le contrat est signé, les discussions sont en cours avec New York, donc on espère voir ces projets-là se matérialiser à court terme.
Ouais, et ce sont des revenus qui vont être les bienvenus au Québec, là, avec les coûts de la pandémie, là, le déficit de 15 milliards. On va essayer de se renflouer grâce à l'hydroélectricité. Je pense qu'on peut avoir bonne conscience au Québec, hein?
Écoutez, c'est une sage décision il y a plusieurs décennies, on a choisi de développer cette ressource-là. On a des ressources hydrauliques incroyables au Québec et on a choisi de développer cette filière-là. C'était une sage décision qui nous a servi au Québec et qui sert aussi nos marchés pour les accompagner, les aider à atteindre leurs objectifs de décarbonation. Et on sait que c'est absolument nécessaire dans le cadre de la transition
énergétique. Avant qu'on cite rapidement, là, l'Ontario et la ville de New York, est-ce que c'est dans les boîtes, ça? Je sais que le premier ministre Legault a essayé de convaincre Doug Ford qu'il n'a pas l'air de vouloir savoir grand-chose de l'hydroélectricité québécoise.
Écoutez, la beauté de la chose avec l'Ontario, c'est qu'on a une capacité aux interconnexions avec notre province voisine qui est disponible. On les utilise pas à leur pleine capacité. On peut en faire plus. Le message est passé. On est prêt pour en faire plus avec l'Ontario quand ils seront prêts, quand ils le voudront bien.
Ouais.
On a l'énergie et on a de la capacité aux interconnexions. On n'a rien à construire là pour en faire davantage. Donc,
et New York.
Et New York, ça progresse bien aussi. Vous savez qu'il y a eu des développements intéressants au niveau réglementaire à New York. Il y a un projet qui reçoit la faveur donc des élus de New York. Alors, les choses progressent de ce côté-là aussi. On espère que ça va débloquer d'ici peu.
Bon, ben, quelques bonnes nouvelles, ça fait du bien. Lynn Saint-Laurent, porte-parole d'Hydro-Québec. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça.
Ça m'a fait grand plaisir.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.